l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. René Ollier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes salarié d'Orange et syndicaliste à Solidaires Sud PTT. Vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est la question de la marchandisation du monde liée au capitalisme. Grande question qui est soulevée aujourd'hui dans le cadre du contre-sommet G7 qui a lieu à Hendaye et au cours duquel vous animez différents ateliers. Donc comment vous vous positionnez déjà au sein du syndicat Solidaires Sud PTT sur ces questions de G7, de mondialisation?
Oui, donc effectivement, là on est à Hendaye, ce qu'on appelle le contre-G7, et dans quelques jours, deux jours, s'ouvre à Biarritz ce qu'on appelle le G7. Alors je dis ce qu'on appelle parce que c'est soi-disant les sept grandes puissances, les sept grandes ce monde qui se réunissent. Il manque peut-être certains, je pense à la Chine par exemple, ou surtout à Poutine, bon, qu'il ne soit pas très grave. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces personnes-là, qui quelque part sont censées diriger le monde, se réunissent pour regarder les inégalités. Donc les inégalités, bon, vont-ils pouvoir faire quelque chose? J'en doute un peu. Alors pourquoi je dis j'en doute un peu? Prenons un exemple. On est en France, donc il y aura une représentation française, en l'occurrence par notre cher président, M. Macron. Et vous noterez que quand ils se réunissent, ces personnes-là, c'est dans un contexte assez fermé. C'est-à-dire, c'est dans un grand hôtel, très luxueux. C'est à Biarritz, entouré de policiers, ou même la population locale pourra des fois même pas rentrer chez elle. Et vous allez me dire, pour parler d'inégalités, ça peut peut-être être bien des fois d'avoir des invités. Alors quand je dis des invités, je pense à une chose toute bête. Il y a des organisations, type les syndicats. Il y a eu un mouvement assez important en France qui s'appelait les Gilets jaunes. Je ne dis pas qu'on aurait notre place à la table, mais pourquoi il n'y aurait pas aussi une représentation de la citoyenneté, ou même des fois des citoyens? Toutes ces personnes-là n'y seront pas. Donc ce qui veut dire que les grandes semaines vont discuter d'inégalités, d'un point de vue à eux qui est quand même très inégalitaire de leur statut, et surtout vont parler de comment marchandiser les biens de ce monde pour faire toujours gagner plus d'argent à qui? Ce qu'on appelle les multinationales.
Finalement, ils se réunissent pour se répartir le gâteau planétaire?
Alors, est-ce qu'ils se le répartiront? Pas sûr, parce qu'effectivement, il y a des absents. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne vont pas, je dirais, le répartir plus vers les personnes. Comme là, on est dans un parc, on est au milieu d'Hendaye, des gens sans doute qui ont des difficultés. Voilà, ils ne vont pas répartir le gâteau vers, je dirais, les populations travailleuses qui, quelque part, créent ce gâteau. Puisque quelque part, les matières qui font que ce gâteau existe, c'est des personnes qui vont tous les jours travailler, tous les matins. Alors après, on pourrait disserter sur est-ce qu'il est normal ou pas qu'il y ait, je dirais, des biens comme des voitures devant nous qui soient marchandisés, mais c'est un peu, je dirais, quasiment pas un acquis, mais acquis pour beaucoup de monde. Par contre, il y a tout un tas, je dirais, d'objets, de services qui sont non seulement utiles, mais indispensables à la vie. On peut penser, par exemple, qu'il est plutôt nécessaire d'être en bonne santé, donc tout ce qui est autour de l'hôpital. On peut penser qu'il est plutôt nécessaire d'habiter quelque part, donc le logement. On peut penser qu'il est utile aussi de pouvoir se déplacer, la question de la mobilité, des transports. Et pas forcément en prenant sa bagnole individuelle, mais en pensant aussi collectif. Donc, par contre, sur ces domaines que je viens de citer, et je n'ai pas tout cité, il y avait effectivement, jusqu'à en gros, en particulier en France, dans la période de l'après-guerre, tout un tas de biens, on appelle ça les services publics. Désormais, effectivement, on réfléchit plus autour de ce qu'on appelle des biens communs, un certain nombre d'objets, de choses, qu'on considère que ça appartient à tout le monde. Et ça appartient à tout le monde, ça veut dire qu'on ne doit pas le marchandiser, qu'il doit y avoir une accessibilité. C'était, il y a une époque, par exemple, l'eau du puits dans un village. L'eau du puits du village, elle appartenait au village.
Il y avait les forêts communales aussi.
Il y avait les forêts communales, tout à fait. Des endroits où il n'y avait pas de servitude. C'était des endroits libres qui servaient à la fois à la population habitante, aussi aux animaux des fois. Et après, l'important de dire qu'il fait une très grosse différence avec l'aspect accaparé par le capitalisme, c'est qu'il y avait aussi une gestion dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, mettons, l'eau du puits, elle était vitale. Y compris, il fallait regarder de ne pas la liquider. Aujourd'hui, vous voyez des mers qui sont, enfin des mers, je pense à des mers fermées, qui sont aujourd'hui totalement fermées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, parce que le capitalisme les a asséchées. C'est-à-dire aujourd'hui, l'idée que transporte, alors ce n'est pas forcément les sept dirigeants qui vont se réunir, en fait. Ceux qui dirigent quelque part le monde, c'est ce qu'on appelle le grand capital, c'est-à-dire ceux qui possèdent les grandes entreprises, etc. Alors, bon, ils sont tout à fait suivis par ces sept personnes. C'est l'idée qu'on pourrait tout marchandiser, y compris, pourquoi pas, marchandiser l'air. Je pense, mettons, à des endroits très pollués comme la Chine, où il y a des... Bon, je n'y suis pas allé, mais je pense que c'est vrai, où il y a des écoles, par exemple, où les enfants sont sous dôme. Il faut payer parce que l'air est trop pollué. Marchandiser, pourquoi pas, les arbres, les pelouses qu'il y a devant nous, marchandiser la totalité des biens. Et à côté de ça, au-delà de cet aspect-là qui peut apparaître assez scandaleux, déraisonnable, c'est derrière le fait que malheureusement, malgré sans doute tout ce qui va être dit là, je ne crois pas aujourd'hui que le capitalisme soit compatible avec une gestion raisonnée de notre habitat, de la planète. Alors peut-être qu'arrivera un moment, au vu de l'état où on est, où quand même il y a des personnes humaines derrière, ils se diront qu'il faut peut-être qu'eux se préservent, mais ils ne préserveront pas les autres. Ils ne préserveront pas une partie des 7 milliards aujourd'hui d'individus sur la Terre. Et quand je dis 7 milliards, c'est nous les humains, mais il y a aussi les animaux, la faune, la flore. Je pense qu'il faut aujourd'hui absolument se battre contre ce système et pour revenir ou venir à une gestion normale, raisonnée de notre environnement et de nos vrais besoins.
Alors donc de ces biens communs qui ont été accaparés, qui sont sortis vraiment du domaine public ces dernières années, la marchandisation des services publics, vous pouvez nous donner des exemples? On va parler de la France, hein, on pourrait parler peut-être d'autres pays européens ou à travers le monde dont vous connaissez les expériences.
Alors parmi ce qu'on appelle les secteurs du service public qui ont été sans doute les premiers privatisés, il y a là où je travaille. Je suis salarié dans une entreprise qui s'appelle Orange. Et en fait, vu mon âge, j'ai été embauché il y a maintenant 30 ans dans quelque chose qui s'appelait le service public, qui s'appelait France Télécom. Le but étant, à l'époque, de fournir un accès téléphonique à prix d'égalité, quel que soit l'emplacement des personnes. Les appétits étant aiguisés, un certain nombre de secteurs se sont aperçus que derrière il y avait peut-être à la fois du business à faire et je pense qu'il y avait aussi une visibilité qu'il pouvait y avoir une évolution de ces techniques, ce qui s'est passé. Donc en fait, en France, puisque c'est les années où ça s'est passé, il y a eu à la fois une privatisation de l'entreprise France Télécom qui s'est passée en 1996. Tout de suite derrière, en lien avec l'Europe et l'arrivée d'une nouvelle technologie qui s'appelle le mobile, il y a eu obligation au-delà de la privatisation, qui est mise en concurrence, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opérateurs sur le territoire français. Alors, ce qui se fait désormais depuis en gros 20 ans, puisqu'on est en 2019, ce qu'avait promis, on va dire ça comme ça, nos grands Européens, c'est-à-dire que ça allait créer de l'emploi, etc. Le bilan, c'est que par exemple, mon entreprise a perdu de 155 000, on est passé à 75 000, donc a perdu 80 000 emplois, certes, en 20 ans. Et ils n'ont pas été créés chez les concurrents, parce que comme il y a concurrence, on pourrait se dire, si la totalité des opérateurs, mais ça n'a pas été créé, y compris il y a des plans de suppression d'emplois depuis plusieurs années récentes là, sur les opérateurs mobiles autres qu'Orange.
Ça, c'est lié à la compétition, à la compétitivité, ça, c'est lié au fait qu'il a fallu réduire les coûts, ou c'est lié aux nouvelles technologies qui font qu'on a besoin de moins de personnes pour gérer les télécoms?
Alors, pour être précis, les nouvelles technologies ont été qu'on peut désormais faire à la fois de la parole, mais également de l'Internet via des mobiles. Donc ça a été des technologies qui sont appelées 2G, 3G, 4G, bientôt la 5G. Ces technologies demandent de l'investissement. Mais ces investissements nécessaires pouvaient tout à fait être faits par l'opérateur qui, à l'époque, était dans le giron de l'État. Juste un chiffre pour comprendre, c'est que l'entreprise France Télécom est en bourse, ont été versés en 20 ans 42 milliards. Et notamment 10 milliards, là, sur ces 10 dernières années, 10 milliards, c'est le coût du plan fibre. Et je vous parle que des dividendes de l'opérateur Orange. Donc alors, ça veut dire que ça pouvait très bien se faire dans un cadre resté sous le giron de l'État pour le bien de la population.
Oui, alors c'est un peu ce qu'on voit de manière générale pour le réseau électrique, pour le réseau ferré, pour là on parle des télécommunications. On a souvent l'impression, et même pour l'eau, que les réseaux coûtent cher, les investissements sont faits par la collectivité ou bien même la recherche, l'expérimentation, la mise en place des systèmes. Et une fois que c'est rentable, ça passe aux entreprises.
Ben disons que dans le cas de France Télécom, ce qui est exact, c'est qu'aujourd'hui, je viens de parler du plan fibre, mais il n'est pas encore totalement déployé. Et beaucoup de gens aujourd'hui, comme mettons ici à Hendaye, ont Internet chez eux via ce qu'on appelle l'ADSL cuivre. C'est-à-dire c'est un fil de cuivre qui arrive et qui porte Internet. Ce réseau, il a été construit dans les années 80, effectivement, dans le giron de l'État, par une entreprise qui s'appelait France Télécom, qui était une entreprise totalement au sein de l'État. Après, si on prend les réseaux mobiles, désormais, ils sont construits dans un autre cadre, c'est exact. Mais petite précision, parce que je pense que c'est important dans le domaine des télécoms, de préciser que ce qu'on appelle les réseaux, il y a la privatisation. Et dans le cadre de la concurrence, il y a aussi ce qu'on appelle, y a-t-il ou pas, multiplicité des réseaux. Alors, je m'explique. Dans le mobile, il y a quatre réseaux téléphonique, 4 antennes mobiles. C'est un peu comme si vous imaginiez qu'entre Paris, pour circuler en TGV, entre Paris et Marseille, il y avait mis en 4 opérateurs, 4 lignes TGV. Mmh. C'est aberrant, mmh. aberrant. L'idée de bien commun, alors pour prendre le domaine de la téléphonie qui est devenu maintenant le domaine d'Internet, nous ce qu'on considère, quand je dis nous, c'est au niveau Sud-PTT, excusez-moi, hein, faut pas dire je, que quand on parle de bien commun, ainsi que, comme j'ai dit au début de la conversation, de nécessité, c'est souvent quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous est le plus nécessaire. Ils peuvent avoir tendance à vous dire la santé, comme j'ai dit, le logement, bon, à la limite, logement, santé, manger. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le fait de communiquer est quand même quelque chose de vital ? Alors pourquoi ? D'abord, je vous ferai remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup de services, notamment administratifs, c'est la volonté de Macron, de passer sur Internet. Ça fait des suppressions d'emplois. Et y a-t-il à côté la capacité pour les gens par Internet de faire l'équivalent ? Ont-ils accès à Internet ? Ça veut-il se servir d'Internet ? Ont-ils un ordinateur ? Donc voilà, il y a une question voilà, de... Deuxième chose qui est très politique, c'est ce qu'on fait là. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'un accès à Internet n'est pas aussi une nécessité humaine d'un point de vue accessibilité de l'information, échange ? Alors, je sais qu'il y a des contre-exemples. On est des fois trop dans Internet. Mais en même temps, il y a quand même des pays où le fait de pouvoir se relier, discuter, faire des réunions, a aussi permis de grandes avancées sociales. Donc à partir de là, on considère que si ça nous semble quelque chose de nécessaire, on peut considérer que c'est un bien commun et qu'il faudrait qu'effectivement, on puisse accéder de chaque point, chaque habitation, à un accès Internet, à un prix le même et une capacité Internet derrière.
Si on parle d'Internet, il y a quand même... Le gros des financements, la fibre optique, c'est les collectivités qui payent.
Pas entièrement. Il y a une partie qui est supportée par les collectivités, une partie qui est supportée par l'opérateur. Alors après, ce qu'il faut être précis, c'est que tout ce qui est mobile, là c'est du réseau, sur la fibre, c'est des investissements qui sont par les opérateurs et principalement par l'opérateur Orange. Après, il est vrai que sur un certain nombre de territoires, il peut y avoir des cofinancements. Mais l'essentiel dans les grandes villes et tout, c'est souvent l'opérateur Orange ou un autre opérateur qui finance. Et à l'arrivée, le réseau, il appartiendra, a priori, aux opérateurs et à l'opérateur principal.
Alors là, ça pose une question de gâchis. Si on se dit qu'il faut 4 antennes pour 4 réseaux, alors qu'ils pourraient être mutualisés, ça pose des questions aussi d'écologie directe par rapport à toutes ces ondes. Finalement, s'il y a 4 fois plus d'ondes, c'est pas très bon pour la santé. Ce serait peut-être mieux de trouver un système plus mutualisé.
La meilleure garantie contre l'effet néfaste des ondes, ce serait d'avoir que du réseau filaire de haut débit et en gros de se brancher sur des spots Wi-Fi. Comme je dis moi, par exemple, même à Andaïla au milieu de la place, est-ce que c'est indispensable de pouvoir demain télécharger un film de 4 heures en 10 secondes au milieu de cette place ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, personne ne se la pose. Tout le monde trouve ça naturel. Est-ce que c'est normal demain au sommet du Mont Blanc de pouvoir téléphoner pour commander son taxi ? Enfin, bon, voilà. C'est un peu là où on est quand même. Alors je dis ça parce que quand même, il faut aussi des fois mesurer que lorsqu'on fait des fois des réunions publiques sur la question des antennes, mais j'avais demandé aux gens, moi je savais, s'ils comprenaient que si on enlevait l'antenne, les smartphones ne marchaient plus. Et les gens m'avaient regardé avec des gros yeux parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient, je pense, l'impression que je ne sais pas, que les ondes arrivaient par miracle. Donc je le dis quand même parce que c'est une dimension importante. Après, sur la question réseau, oui, c'est certain que d'un point de vue rationalité, ce serait mieux qu'il y ait un seul réseau. Alors même si après, il faut bien comprendre que lorsqu'on est à un point, s'il y a un seul opérateur, une seule antenne, tout le monde se branche dessus, donc il faut vérifier l'effet capacitaire. Mais ce serait plus rationnel quand même, tout à fait.
Thank you. Alors, donc, autre bien commun dont on peut parler aujourd'hui avec vous, René Ollier, c'est les transports. Donc, c'est une vraie question. Donc, la marchandisation des transports, là, notamment, c'est lié complètement à l'Europe pour la France. On est en train de démanteler notre système de transport actuellement.
Alors, c'est le cas précisément, notamment avec l'ouverture à la concurrence là, qui est en train de se faire sur le rail, hein, avec la bataille des cheminots qui a eu lieu il y a 2 ans et qui, malheureusement, a été perdue. Après, sur les transports, moi, je pense que c'est une vraie question parce qu'on se rend compte que, comme je l'ai dit, bon, Internet, c'est assez indispensable, mais Internet, on ne se voit pas. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que tous les matins, beaucoup de gens, et c'est souhaitable quand ils se lèvent, bon, des fois vont travailler, donc se déplacent. Deuxièmement, ils ont des fois aussi besoin de se voir pour des raisons humaines, voilà, de divertissement ou autre. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le premier constat qu'on fait, c'est que c'est quand même, pour l'instant du moins encore, toujours le domaine roi du transport par la route. La voiture, plutôt individuelle, et les camions. J'insiste sur les camions, puisque notamment, alors je ne sais pas exactement s'il est définitivement arrêté, mais ça a fait pas mal couler d'encre. C'est notamment ce qu'on appelait le fameux train qui reliait le sud de la France à Rungis, qui s'arrête pour être remplacé par une armée de camions sur les routes. Donc, si on prend les empreintes CO2, le train, c'est quand même ce qui est le moins coûteux, de loin devant la voiture et le camion. Donc aujourd'hui, ça nous semble assez irresponsable de ne pas prioriser le réseau ferré qui existe et de ne pas faire en sorte que dans les différentes agglomérations qui existent, on priorise le collectif, donc le commun, sur la voiture individuelle.
Oui, mais alors là, la question du ferroutage qui remplace le transport de passagers, c'est une vraie question aussi, sans entrer trop dans le débat sur la mondialisation, la circulation des marchandises qu'on pourrait éviter par la relocalisation des productions. On a quand même un principe de réalité, c'est qu'on a énormément de camions qui sont débarqués dans tous les ports européens et que s'ils circulent sur le rail, c'est quand même largement moins néfaste pour l'environnement que si c'est sur la route. Donc finalement, ce que vous dites au syndicat Sud PTT, ce serait plutôt une vision de dire qu'il faudrait garder les lignes de ferroviaires passagers et dédoubler pour du ferroutage.
Alors pourquoi pas? Alors après, la principale question, on va dire, c'est que pour moins encombrer, on va dire, l'environnement, que ce soit de voiture, de train, d'avion ou de camion, c'est effectivement de moins se déplacer. Je suis d'accord. Et ça renvoie, mais c'est des questions très très lourdes, à tout en gros, à la fois l'urbanisation des villes, aux implantations des entreprises, aux implantations de l'ensemble de la production. Deuxième chose, sur la question notamment de l'alimentation, ça renvoie effectivement à avoir une capacité de production sur place et de ne pas déplacer tous les objets ou de déplacer du blé ou de déplacer pour assembler une voiture, de la produire pour partir en France, de l'envoyer en Roumanie, etc. Donc ça, je suis d'accord. Après, nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est en attendant qu'on ait réussi un peu à modifier, parce que c'est des trucs très lourds quand même, hein. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une concentration sur Paris, il y a une concentration sur les métropoles, etc. Si on veut essayer d'avoir des choses plus raisonnables, tout ce qui est agriculture, en plus, même si ça bouge quand même par petites touches, c'est bouger ça. Donc en attendant ça, ce qu'on se dit, c'est que peut-être qu'il serait quand même raisonnable pour une partie importante aujourd'hui de déplacement, de prioriser effectivement une capacité, alors par le train, ce qui nous semble bien. Il y a quand même pas mal encore de rails existants dans pas mal de villes, donc pour les passagers. Après, il faut du point à point, donc là, ça renvoie plus au transport en commun. Il y aura toujours peut-être besoin, dans un premier temps, d'avoir des deux roues ou des voitures. Quant aux objets, sans doute qu'il faut aussi, à l'arrivée, entre la gare et éventuellement les lieux de production ou de vente, avoir des camions. Mais là, aujourd'hui, on est quand même dans une chose où, mais des fois, entre Paris et Paris-Lisbonne, entre Paris-Barcelone, Paris-Marseille, Paris-Toulouse, tout passe par la route, quand même, par des camions, quoi. C'est quand même pas très raisonnable, quoi.
Du coup, sur les questions de transport de passagers, René Ollier, il y a tout un mouvement actuellement pour la gratuité des transports en commun.
Alors, soyons raisonnables, il y a un mouvement qui se développe, c'est exact. Après,
qui existe depuis de nombreuses années. Hein. Il y avait RATP, rentre avec tes pieds, déjà en région parisienne depuis très longtemps, et puis dans plein d'autres villes.
Alors, tout à fait. Disons que la gratuité dans des lieux pour se déplacer sur des agglomérations, donc la passager sur des communautés, ça existe depuis très longtemps, on va dire. Bon. Après, ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, il y a un peu une recrudescence à la fois de villes qui se posent la question, de villes qui le font, et en réseau, j'en parlerai un petit peu après, qui militent pour ça. Alors, sans doute que Il faut constater qu'il y a quand même, une concentration, on vient de l'évoquer, de population dans des villes. Bon, ça, donc ça pousse à améliorer, indépendamment du prix, la capacité du déplacement des personnes dans ces villes, pour aller au travail, rentrer du travail, bon, voir des gens, etc. Deuxième chose après qui se passe, c'est peut-être aussi de rentrer en résonance avec les questions, je dirais, d'ordre écologique. C'est-à-dire aujourd'hui, dans beaucoup de villes, même lorsqu'il existe une desserte correcte de transport en commun, ben les gens, des fois, ne les prennent pas. Donc tout ça a amené alors certaines villes à faire le pas il y a une dizaine d'années, c'est le cas d'Aubagne, en banlieue de Marseille. Récemment, il y a une ville qui vient de le faire avec un énorme travail de mise à niveau de son réseau et ensuite de gratuité, c'est la ville de Dunkerque, dans le Nord. Il y a, je dirais, un territoire assez important qui se pose la question, c'est le duché de Luxembourg. Et d'autres villes qui ont eu des réflexions. Je sais que côté Rennes, il y a eu une réflexion à la mairie. Même sur Paris, ça a été évoqué. Bon, sur Paris, c'est un peu particulier parce que bon, moi, j'y travaille, même gratuit. Même en payant, on ne monte pas à bord. Des fois, il y a trop de monde. Donc là, il y a aussi une question de densité, etc. Et la question a été posée dans certains pays européens, notamment, je pense, à l'Allemagne, dans les grandes villes de la Ruhr, où là, ça a été posé pour des raisons de pollution atmosphérique, de microparticules. Donc en fait, les raisons qui ont amené à la gratuité, vous le comprenez là, ont des fois été un peu diverses et variées dans le temps. Et là, depuis maintenant, on va dire 2-3 ans, et beaucoup quand même, je pense, en particulier après la COP21 qui a eu lieu en France, ça a progressé quand même sur les questions climatiques et les questions d'environnement, les questions de pollution. Il y a un certain nombre de villes où des associations se sont regroupées. Moi, c'est mon cas, je suis de Rouen, où en fait, la question n'est pas de... Avec la gratuité dans les transports en commun, on n'interdit pas la voiture. Bon. Et de plus, il faut quand même que la qualité soit là. Si je n'ai pas un bus qui m'emmène à peu près à mon horaire de travail, voilà. Mais par contre, on constate qu'il y a un vrai questionnement. Et les endroits où ça se fait, Dunkerque c'est le plus récent, là, puisque ça a un peu plus d'un an, en gros, ça double la capacité à bord sur un an. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui ne prenaient pas, qui prennent. Donc il y a un pourcentage non négligeable, ça c'est clair, de personnes qui abandonnent la voiture. Ou par exemple de foyers qui avaient deux voitures qui passent à une. Donc ça participe, je dirais, de manière écologique, avec moins de voitures, moins d'empreintes gaz carbone, moins de microparticules. Ça participe de manière non négligeable, en baissant les microparticules, aux questions sanitaires, moins de maladies. Et puis aussi, ne l'oublions pas, je suis un syndicaliste, donc bon, voilà, ça participe aussi socialement de pouvoir des fois, vous allez me dire, c'est pas si cher que ça, oui, mais il y a des personnes que c'est cher pour elles, de payer des fois un ticket aller, un ticket retour, ils ont des enfants, 2, 3, 4 tickets à 2 euros à l'unité, ben 10 euros dans l'après-midi, ils ne peuvent pas payer ce déplacement.
Puis il y avait des chiffres que j'avais vus, en fait, il y a des études qui ont été faites sur le coût de tout ce qui est billetterie, contrôle, qu'il y a un coût énorme lié au fait que les transports soient payants, que si on les rend gratuits, en fait, on supprime, on supprime des emplois, mais on supprime aussi des coûts liés.
Alors, sur cette question-là, d'abord, alors, sur la question de l'emploi, les endroits où ça s'est fait, c'était une inquiétude en particulier des salariés, des syndicalistes sur ces villes, ça ne supprime pas d'emploi. C'est plutôt une réorganisation de l'emploi. Parce qu'en général, comme il y a plus de personnes à transporter, ben ça crée plutôt de l'emploi de chauffeurs, par exemple. Et après, ce qu'on fait souvent les villes pour les parties qui disparaissaient, c'est-à-dire par exemple la billetterie, c'est le cas sur Aubagne, si je ne me trompe pas, en fait, ils ont laissé à bord des personnes qui sont en gros des accompagnateurs. Après, sur les questions de coûts, la billetterie suivant les villes, c'est nous à Rouen, mettons, ça fait 23 millions sur un budget de 200. C'est pas négligeable. En même temps, c'est pas si gros que ça. Donc après, ça ne peut pas être compensé par le gain du fait qu'on supprime la billetterie, etc. Mais on a des pistes. Alors on a des pistes. D'abord, les villes qui l'ont fait, des fois elles, ont fait progresser ce qu'on appelle... Il y a une taxe qui existe, le versement de transport. Alors il y a des barrières, mais dans ces villes-là, ils ont pu la faire monter, donc ça a compensé. Après... Une autre piste, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi qui fait que les employeurs remboursent 50% des frais des salariés. Donc soyons clairs, moi je travaille à Rouen, mon employeur, l'entreprise Orange, me rembourse à moi, mais aux milliers de personnes qui travaillent, et toutes les autres pareilles, 50% des frais des transports en commun, puisqu'il y a des fois le train et tout. Si demain, c'est gratuit, bingo pour les entreprises, j'ai rien à rembourser. Donc vous pourrez peut-être leur dire de mettre l'équivalent dans le budget. Et je ferai remarquer qu'un intérêt, c'est que non seulement ça bénéficierait aux salariés, mais à tout le monde.
D'accord. Donc il y a actuellement une pétition qui tourne sur la gratuité des transports en commun. Alors comment on peut la signer ?
Alors pour l'instant, c'est un appel national qui va être lancé vers le 10 septembre à partir d'une ville qui s'appelle Châteauroux. J'expliquerai pourquoi. Donc ça, en fait, c'est venu. Comme je l'ai dit, il y a des villes qui sont en gratuité. Bon, en France, il y en a une trentaine. Et il y a des endroits où des collectifs se battent pour essayer de convaincre de passer en gratuité, comme moi sur Rouen, sur Grenoble, sur Nancy. Et on s'est dit que peut-être on pouvait alors à la fois profiter un peu de l'élan qu'il y a sur les questions écologiques, etc., ou les questions de ce monde, pour un petit peu mettre en avant cette question-là. Donc du coup, il y a effectivement un appel national pour la gratuité des transports publics locaux. Donc je vous donne les titres, ça donne une idée. Il y a urgence climatique, on l'a évoqué. Il y a urgence sanitaire, donc là c'est l'aspect particules fines, etc. Urgence sociale, là c'est tout à fait avec les gilets jaunes, les questions du coût pour se déplacer. Et ensuite, on développe la gratuité, c'est possible, avec des exemples notamment de villes qui l'ont fait. Cette pétition, là, on est en train de rassembler en gros un panel. On devrait avoir une 500-600 personnalités un petit peu connues. Et on la rendra publique, donc c'est mi-septembre, vers le 10 septembre, dans la ville de Châteauroux. Parce qu'en fait, Châteauroux est une ville qui a été mise en gratuité il y a une quinzaine d'années, je pense. Et à l'initiative de Dunkerque, qui est en gratuité que depuis deux ans, depuis Dunkerque il y a un an, Châteauroux cette année, il y a un peu un collectif de villes aussi qui se dit, ben, on essaie chaque année de voir un petit peu, de mettre en avant cette affaire-là. Voilà.
Donc une pétition pour la gratuité des transports en commun. Donc on peut peut-être écrire là, transport gratuit au pluriel, crea@gmail.com.
Oui.
Merci beaucoup René Ollier.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.